Bonjour et bienvenue dans ce podcast hors série de Serial. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée 2016 pour les séries. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, je suis avec deux magnifiques personnes. Il y a Galax.
Bonjour.
Et il y a Kayen.
Bonjour.
Et je suis Kos, et on va commencer par parler de The Good Place. Alors The Good Place, c'est une série qui a été diffusée sur NBC et qui raconte l'histoire d'Eleanor. Eleanor, elle vient juste de mourir. Elle est emmenée dans un étrange bureau où il y a Ted Dawson, un personnage joué par Ted Dawson, qui la reçoit et qui lui dit qu'en fonction des bonnes actions qu'elle a commises, elle a droit à être dans The Good Place, qui est une sorte de paradis en fait. Il y a seulement 10% de la population qui y va et qui a le droit de vivre ici éternellement et d'être heureux. Sauf que le twist, c'est que Eleanor, du coup, était sur Terre, était une mauvaise personne, elle a été confondue, en fait, et elle ne devrait pas du tout être dans cet endroit. Alors, c'est un format sitcom de 21 minutes, avec pas mal d'acteurs connus, donc il y a Ted Dawson, comme je viens de le dire, en rôle secondaire, et il y a Kristen Bell, qu'on connaît surtout pour Veronica Mars et Gossip Girl, qui joue le rôle principal. C'est une série que j'ai plutôt appréciée dans son pilote, puisque, en fait, c'est assez coloré et assez enjoué. Ça m'a fait un peu penser à Pushing Daisies, et un petit peu aussi à Parks and Recreation, ce qui est normal parce que c'est les mêmes créateurs, les mêmes showrunners de Parks and Recreation. Donc ça démarre vraiment très coloré, très positif. Le but d'Eleanor, bien sûr, va être de se faire accepter dans ce monde et surtout d'être de plus en plus gentil, parce que c'est vraiment une personne assez horrible en final. Et elle se fait aider par ça, par son âme sœur, parce que dans The Good Place, chaque personne a droit à son âme sœur. Et son âme sœur, c'est un personnage qui est en fait un ancien professeur d'éthique, donc il va l'apprendre à être une bonne personne, à être quelqu'un de bien. Donc voilà, on a tout le schéma sitcom traditionnel. Dans chaque épisode, elle se comporte de façon horrible au début, et puis elle essaie de se rattraper et de faire des bonnes actions. Et voilà, ça dure 20 minutes. C'est plutôt sympathique, le pilote est bien, est coloré et sympathique. Je trouve malheureusement que ça s'essouffle assez vite, dès le deuxième et puis dès le troisième surtout. Où vraiment, on se retrouve un peu dans une configuration à The Last Man on Earth, une série diffusée sur la Fox. C'est-à-dire beaucoup de promesses, beaucoup de possibilités de développement du monde. Par exemple, est-ce que vraiment, quel est vraiment cet endroit? Est-ce qu'il y a d'autres The Good Place? À quoi ressemble vraiment l'enfer? Pourquoi s'est retrouvé là? Voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, c'est pas vraiment exploité. La série préfère juste faire de la facilité autour de ces cinq personnages principaux. D'ailleurs, je trouve que 5 personnages, c'est vraiment trop peu, ça manque d'exploitation, on a l'impression que le reste du monde fait très figuration. Donc ouais, ça m'a un peu gêné. La seule chose qui sauve un peu la série, c'est que dans chaque épisode, chaque fin d'épisode, il y a un espèce de twist qui est intéressant. Mais sinon c'est pas top. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Bah moi, comme toi, j'ai trouvé le concept original, et puis je trouvais que c'était propice à la comédie. Que ça pouvait amener des réflexions en plus qui étaient pertinentes, notamment sur la question de la moralité ou qu'est-ce que c'est être une bonne personne finalement et tout.
Mais c'est très juste. Mais
moi j'ai vu que 2 épisodes et je trouvais du coup là où j'en étais, donc c'était le pilote de 40 minutes enfin, et je trouvais que la série était assez délirante et folle dans le bon sens du terme.
Ouais,
comme
ouais,
toi. Ouais, et comme toi, je trouvais que c'était léger, coloré, ça faisait du bien. Le personnage d'Eléonore, il était détestable, mais on prenait plaisir à le détester, surtout quand il s'agit de Kristen Bell, quoi. Et
c'est vrai qu'elle est vraiment excellente. Hein. Vraiment. En fait, je pense que.
Ouais, moi, je la trouve géniale.
Hein. Ouais, il y a vraiment un truc avec les acteurs, quoi. Les 5 acteurs principaux sont très très bons.
Et moi, ce que j'avais noté, c'est que il y avait aussi, enfin, c'est le fait aussi qu'il y avait un véritable univers, et je trouve que c'est assez rare dans les comédies, en fait, que généralement ça se situe toujours dans un lieu réaliste assez commun. Et là, c'est dans une version du paradis, un brin déjanté, et ça, je trouvais ça intéressant.
Ouais. Mais du coup, est-ce que t'as envie de voir la suite? Est-ce que tu vas voir la suite?
Justement, le point négatif, moi, que j'avais noté et que bah tu as confirmé un peu dans ce que tu as dit, c'est que j'avais un peu peur, moi, que ça devienne très vite répétitif, en fait, où chaque épisode pourrait devenir une sorte de test pour l'héroïne. Et dans ce cas, en fait, pour moi, ça allait vite devenir lassant, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. T'en as pensé quoi, Galax?
Ouais, bah moi, je suis à peu près d'accord avec ce que vous avez dit, mais je pense que j'ai quand même... J'en suis à l'épisode 5, moi, il me semble, donc j'ai
fini
jusque-là, déjà. Ouais, donc j'ai vu quand même pas mal de choses jusqu'au 5. Et ouais, alors ce qui m'a gêné, alors comme tu dis, la dynamique des personnages est vraiment super top grâce aux acteurs notamment. Et je trouve que ça se détache quand même largement de Last Man on Earth, parce que tu l'as cité, c'est vrai qu'il y a un petit rapprochement dans le sens où c'est tout un univers avec un pitch de base super et que ça s'essouffle petit à petit. Mais par rapport à Last Man on Earth, quand même, il y a beaucoup beaucoup plus de d'attachement aux personnages, je trouve. La dynamique fonctionne mieux, quoi. Surtout le lead qui devient très vite insupportable dans Last Man on Earth. Enfin, c'est pas le sujet. Et ouais, et donc c'est pour ça que moi je poursuis perso, parce que ça, je trouve la série, elle arrive quand même assez bien à gérer sa dynamique à chaque fois. Il y a des épisodes où ils exploitent les deux secondaires là. J'ai oublié leur nom, Tajimila ou et son mari. Enfin bref,
Mais son mari qui est muet, hein, c'est ça?
ouais, qui est son mari qui est muet. Il y a pas mal de rebondissements autour d'eux, on voit leur passé, tout ça, mais on est qu'à 5 épisodes, et je crois que c'est genre le deuxième et le cinquième sont tous les deux sur Jamila. Enfin, on voit directement qu'ils sont assez limités. Et
Le
ouais, ça
personnage
c'est
est ultra agaçant.
ça, ouais. Et c'est assez dans le cinquième, elle devient, moi perso je l'ai plus aimée, elle devient assez attachante sur certains points. Mais c'est vrai que on se dit c'est quand même dommage de faire ça alors que la série a le potentiel de faire beaucoup plus. Mais je pense que ça va le enfin, je pense que ça va le faire à la fin de la saison. Ils vont sûrement commencer à explorer plus le Good Place en lui-même, parce que c'est ça clairement le plus intéressant dans la série. Et en
Clairement.
attendant, il y a quand même pas mal de bonnes situations. C'est super super entraînant. En perso, pour moi c'est une bonne nouveauté dans l'ensemble, et je continuerai à regarder la suite, au moins la première saison. Et j'espère quand même que la fin sera bien, et que si deuxième saison il y a, et que si elle se fait renouveler aussi. Je sais pas trop au niveau des audiences comment ça se passe, mais j'espère qu'elle va quand même plus décoller, qu'elle va se détacher un peu de ce format. Oui, il faut qu'Eleanor soit gentille, et oh, elle est plus gentille, puis en fait si à la fin elle comprend ses erreurs et autres. Bon.
Ce qui peut-être sauver la série, c'est que c'est des types de Parks and Recreation. Et Parks and Recreation en saison 1 est assez moyenne et commence un peu à décoller en saison 2. Donc ça peut faire un peu le même système, mais il faut vraiment qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant à dire. On va enchaîner sur la seconde sitcom avec beaucoup de guillemets humoristiques de cette rentrée, qui est Son of Zorn.
Ouais, Son of Zorn, c'est l'idée un peu folle d'un guerrier du nom de Zorn qui vient d'un monde animé et qui fait son retour en Californie pour l'anniversaire du fils qu'il a eu avec une humaine. Donc ça c'est pour le pitch. La grosse particularité de la série, elle mélange animation et prise de vue réelle, chacun correspondant à un univers différent. Donc l'animation c'est pour l'univers de Zorn, et la prise de vue réelle concerne plutôt notre monde. Donc ça, c'est pour présenter un peu la série. Maintenant, ce que j'en ai pensé moi, eh bien, c'était une série que j'attendais avec énormément d'impatience. Sur le papier, il y avait tout ce que je peux attendre d'une série. Le concept était original, l'idée sympa. J'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner concrètement. Et alors, le concept est original, il n'y a pas de doute. Mais il y a juste un gros problème, c'est que la série, elle oublie d'être drôle, quoi.
C'est exactement ça.
Ouais, j'ai regardé que le pilote, et même si certains gags m'ont fait sourire, j'ai aussi beaucoup, mais vraiment beaucoup, été gêné par certains d'entre eux, quoi. Il y en a qui étaient vraiment très limites, et ça me faisait pas rire du tout, quoi.
Oui, tu as poursuivi
Ouais.
au-delà du pilote? Rien.
Pardon?
Est-ce que tu as été au-delà du pilote? Est-ce que tu as vu
Non. Pas du tout, et puis j'ai pas l'intention d'aller au-delà, parce que en fait le truc en plus c'est que si on lui retire son concept à Son of Zorn, c'est une sitcom comme tant d'autres en fait. Elle compte beaucoup trop sur son concept et sur ses références diverses et variées pour essayer de convaincre, mais au final c'est vide, quoi. Et enfin moi je trouvais qu'il y avait rien de plus.
Ouais, moi je suis d'accord, surtout ce dernier point qui m'a vraiment gêné, c'est que l'originalité de Son of Zorn là, c'est une originalité juste sur le papier. À mon avis, ils ont fait ça pour se démarquer, pour dire oh, on fait quelque chose de nouveau. Et au final, c'était vraiment super classique, super revu, c'était une sitcom juste normale. Le Zorn là, il choque personne, enfin je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment un artifice, quoi. Ça servait à rien, et en plus, comme tu as dit, c'était pas drôle. Enfin personnellement, j'ai quasiment pas rigolé. Donc bon, après, je suis pas allé au-delà du pilote non plus, et j'irai pas au-delà du pilote. Je pense pas que la série, enfin, il me semble pas que la série a l'air de s'améliorer quand on regarde un peu les retours. C'est toujours dans la même veine. Donc bon, après, les gens, ils peuvent tester le pilote, hein, et peut-être trouver ça sympathique 2 minutes, mais je sais pas si, enfin, en tout cas, personnellement, moi, je sais que j'irai pas du tout plus loin. Et comme toi, j'étais super déçu parce que, pareil, j'entendais beaucoup. Et donc voilà, c'est pas bien, c'était la Fox, encore une déception de nouveauté sur la Fox, et voilà.
La Fox, ils sont pas bien cette année, j'ai l'impression. Ouais,
Ah ouais,
c'est
mais.
comme vous, hein, la déception vraiment de la rentrée. Grosse attente, gros taux érectile de notre part sur le site. Et puis patatras, c'est très mauvais. C'est un projet qui aurait pu être génial sur une chaîne du câble, genre Adult Swim, les mecs qui font Rick and Morty, où vraiment là, il fallait vraiment des gens et faire un truc vraiment complètement fou et déjanté. Là, on est sur la Fox, du coup, c'est hyper convenu. On a l'impression que le truc a été réécrit genre 14 fois. C'est une série qui est produite par les mêmes mecs qui avaient fait Last Man on Earth. Je pense qu'on va en parler du coup à chaque fois.
Encore.
Encore. Et par les mecs qui avaient fait Lego Movie. Il n'y a pas d'idée, quoi. Il n'y a vraiment pas d'idée. Comme tu dis, Galax, c'est très, très juste. Ils auraient pu jouer sur le fait que le mec était un personnage d'animation. Mais en fait, non, c'est complètement convenu. Toutes les situations se voient venir à des kilomètres. En fait, elles sont toutes basées sur le gag suivant. Ah, mais en fait, c'est assez drôle parce que lui, c'est un personnage d'animation. Regarde, c'est marrant. En fait, c'est pas marrant, quoi. Le moment où il tue l'oiseau dans l'épisode 1, mais quel moment de malaise total, quoi.
Ah, oh, c'était gênant ça.
C'était ouais, moi c'est exactement ce moment-là que je disais c'était long en plus.
Mais ouais, en plus
Ouais.
ça m'avait fait rire dans le trailer, c'était ce, enfin ça m'avait fait rire, mais non, enfin
Ouais, et j'ai vu l'épisode 2 moi, et ça s'arrange pas du tout.
non.
Donc
Oula.
non, il faut oui, oui, bien sûr, bien
Tu as été
sûr.
courageux alors.
Oui, et non, non,
Petit twist.
il y a vraiment pas d'idée. Voilà. Donc non, on déconseille tous à l'unanimité Son of Zorn. Est-ce qu'on va déconseiller tous Galaxy Speechless? Est-ce que tu as aimé
Ah, The
Speechless,
Good
tu vois?
Place.
Non, Speechless, la
Ah,
suite.
pardon, ok. Non, moi, Speechless. Alors, non, moi, j'ai bien aimé Speechless. Je sais que toi, non. Quelqu'un, j'ai oublié, je crois, pas de top. En tout cas, c'est donc une sitcom sur ABC, ABC, avec une famille américaine classique, typique, mais l'un des enfants, l'aîné, en l'occurrence, est handicapé en fauteuil roulant. Il peut pas s'exprimer sans auxiliaire qui fait sa voix. Et le pitch, donc, ils viennent d'emménager dans une nouvelle ville avec une nouvelle école pour enfants. Ils doivent trouver un nouveau traducteur et ils doivent se faire à la vie de la famille. Donc, le petit à l'école, l'autre petit plutôt à l'école et la petite fille qui, elle, est une sportive, je crois. Et il y a les relations de voisinage aussi. Enfin bref, c'est typiquement ce qu'on pourrait attendre de la sitcom. On suit le point de vue principalement de la mère qui essaye un peu de tout gérer dans sa famille. Et donc, ouais, c'est totalement dans la veine de tout ce que fait ABC en général. Et moi personnellement j'avais bien aimé le premier, je trouvais qu'il y avait des bons gags, la bonne dynamique avec l'enfant, et qu'ils en faisaient pas trop. Perso j'avais peur que ça soit tout autour de l'enfant, mais ils ont l'intelligence de mettre en lumière les autres personnages de la famille. Et je trouve qu'ils arrivent assez bien à décrire les situations que pourraient ressentir les handicapés au quotidien. Sans non plus tomber dans juste dans comment dire dans l'attrait oh regardez on fait un enfant handicapé donc c'est original venez voir cette sitcom non c'est super classique hein, et je pense c'est pour ça que ça peut aussi déplaire parce que ABC fait toujours un peu dans la même chose moi je suis super fan de The Middle que je suis depuis très longtemps et c'était clairement toujours dans la même chose avec la mère de famille les trois enfants. Et donc voilà, c'était pas super original. J'ai regardé le 2 déjà, je trouvais que Jack c'était un peu moins drôle et que ça s'essoufflait. Donc bon, je pense pas que je vais finir la saison, mais en tout cas le pilote m'avait plu. Et je pense que ça peut être sympathique quoi, le moment de détente à thé pour les Américains. J'irai pas jusqu'à suivre sur plusieurs saisons et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait du potentiel et que c'était voilà classique, une sitcom ABC sympathique, sans plus mais sans moins. Voilà.
C'est pas très intéressant, je te rejoins là-dessus. En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette série, peut-être citer The Middle, mais aussi Modern Family un petit peu, Michael J. Fox Show il y a 2 ans avec Michael J. Fox qui était un petit peu du même sujet, il y a The Foster aussi. Voilà, il y a plein de séries de ABC, typiquement séries ABC comme tu l'as dit. C'est pas du tout intéressant, il n'y a pas d'originalité, le personnage de la mère joue. T'as un personnage de mère qui défend absolument son enfant, le personnage du père est un personnage cool, comme ça que j'ai vu des milliards de fois. En plus, je trouve que. Et à un moment, ça tente une espèce de critique, ça tente une espèce de critique de la vague de tolérance qu'il y a un peu dans une certaine forme des États-Unis, quand le fils en fauteuil roulant arrive dans sa classe et tout le monde veut élire président. T'as un peu une esquisse de critique qui est pas du tout poussée jusqu'au bout. Et du coup, ça se termine même en discours complètement avec guimauve, quoi. En gros, ça critique ça et ça finit par se vautrer un peu dedans. Ça m'a vraiment, ça m'a un peu gêné. Et même pourtant, c'est dommage parce qu'il y a quand même des bons gags. Il y a un moment, il y a le fils a une traductrice et il lui fait dire qu'elle a un peu une voix un peu de sorcière, un peu de conte. Et elle lui fait dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire badibou, voilà, badiboubou. C'est assez marrant. Je l'explique pas, mais c'est assez marrant. Il y a quelques gags qui fonctionnent bien. Mais globalement, tu regardes pas une série, une sitcom comme ça pour deux gars qui te font sourire, quoi. Donc, vraiment, moi, je passe ça et j'en ai marre que la télé américaine fait toujours ce genre de choses. Je suis sûr que dans 20 ans, tu reviendras et ils continueront à faire le même genre de sitcom. Ça m'a agacé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Kaya?
Bah moi déjà je tenais, enfin moi je tiens à saluer quand même le fait que cette comédie fasse du handicap son thème principal, car même ça, enfin même ça a déjà été abordé dans plein de séries, je crois qu'il n'y en avait pas une encore, une comédie en tout cas, qui avait fait du handicap son véritable fil rouge. Est-ce que je me trompe?
Je sais pas, Galax, t'as l'air d'être plus calé que moi.
Je sais pas non plus, je pense pas, non, en effet. En tout cas, c'était clairement ce qu'avançait la série, donc à mon avis, c'était une originalité de la série, ouais. On
Bah,
va dire qu'en tout cas, c'est louable, quoi.
dans un Michael J. Fox show, Michael J. Fox qui joue son rôle, a un handicap. Bon, c'est père de famille,
Ouais,
mais
c'est
il a un
vrai, ouais.
handicap.
Mais du coup, comme tous les sujets sensibles, en fait, je trouvais que c'était tellement casse-gueule que, enfin, je tiens quand même à saluer l'audace d'ABC sur ce coup-là, quoi.
Ouais, mais c'est. Moi, je suis d'accord, mais c'est une dose un peu calculée, je trouve. Je trouve ça un peu cynique. Tu trouves pas que c'est. Tu sens qu'ils te disent, ah, on va faire un truc pour faire pleurer dans les chaumières, quoi.
Ah non, mais attends, parce que justement, moi, j'ai trouvé ça sympa. Enfin, il y avait de belles images, de beaux moments. Enfin, il y avait parfois c'était drôle, mais en fait, dans le fond, je trouvais que ça restait très gentil. Et contrairement à Galax, moi, ça m'a gêné qu'en fait, il fasse de l'enfant handicapé presque un personnage secondaire. En fait.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu mis en présence dans cet épisode.
Parce que moi, je trouvais que justement, toute l'originalité de la série, elle était dans ce personnage-là. On n'est pas obligé de rentrer dans une sorte de caricature ou je sais pas quoi, mais en tout cas, je trouvais que l'originalité était là. Et un peu à la matière, à la manière de Son of Zorn, en fait, je trouve que ils ont, dans le fond, on a l'impression qu'elle assume pas ce qu'elle est, cette série, et que c'est encore une énième comédie familiale qui se cache derrière une pseudo-originalité qui, en fait, n'est pas là, pas vraiment là, en tout cas.
Ouais.
Moi, je pensais plutôt qu'ils ont voulu montrer que même si il y a un enfant handicapé dans la famille c'est aussi constitué genre de quatre personnes là dans ce cas-là, et que c'est normal qu'on trouve derrière des histoires normales, parce que je pense justement ça aurait été beaucoup trop casse-gueule si dès le pilote et dès à tous les épisodes ensuite il y aurait une nouvelle histoire avec l'enfant handicapé et ses malheurs et ses désaventures et tout ça. Et donc moi perso j'avais bien aimé justement parce qu'il était certes secondaire, mais c'était quand même un des plus importants avec en gros la mère et le deuxième fils, quoi. C'est surtout enfin, on peut pas dire qu'il soit le principal qu'on voit le plus souvent et tout ça, mais c'est quand même un peu le cœur de la série. Dans l'épisode 2, il est plus présent que dans le 1, par exemple. Mais moi, j'ai bien aimé justement le fait qu'il montre les autres aspects pour montrer que la famille, bah ouais, mais elle est aussi normale de l'autre côté, quoi. Et je trouve que c'est bien justement, ça fait comme si bah, c'était comment dire, que c'était acceptable, tout à fait normal, et que en même temps on puisse dénoncer quelques situations. Il y a la partie, je crois, dans le pilote de la rampe. Pour accéder à son université qui est genre derrière dans le local à poubelle ou autre. Cette scène-là était cool. Et il y en a quelques-unes dans l'épisode, mais l'épisode et la série ne se limitent pas qu'à ça. Elle ne peut pas se limiter qu'à montrer les aventures, enfin les disparités que ça fait avec l'enfant, quoi, avec l'ado.
Moi, je sais que ça m'a, enfin, je sais pas, j'ai été gênée quand même parce que je trouvais que la série aussi, elle faisait véhiculer aussi une image un peu faussée de la réalité, en fait. Je sais pas, tu citais tout à l'heure, Cos, la scène où ils ovationnent justement l'enfant handicapé, je sais plus son prénom. Il l'ovationne parce qu'il se présente pour être le président de son école. Et c'est mignon, c'est beau, c'est gentil, c'est un joli message de tolérance, vraiment, et tout. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Sauf que, franchement, j'aurais envie d'y croire, mais c'est vachement too much et c'est amené sans aucune subtilité, quoi.
Bah, c'est pour ça que je disais que moi je pensais que c'était une critique. C'est-à-dire que ça vannait un peu le ça. D'ailleurs, c'est pas lui qui se présente, c'est la classe qui cope pour être président. Lui, il va rien demander. C'est la classe qui dit, voilà, tu veux être président de notre école. Moi, je pensais justement que c'était une critique, ça. Et que du coup, la série vannait un peu ce côté mielleux, sur mielleux.
Ouais, je suis
Ouais.
d'accord avec toi, parce que t'as aussi le moment à la fin de l'épisode dans le parc d'attractions, je sais pas quoi, où là c'est carrément tout le public qui l'acclame, et c'est évidemment too much, c'est évidemment pas à prendre au premier degré. Enfin, à mon avis, enfin, perso, je l'avais pas pris sérieusement. Et j'ai vu, enfin, en tout cas, j'avais lu quelques retours d'une personne avec un enfant handicapé qui a dit que la série, elle était justement pas du tout déformée de la réalité. Bon, je suppose qu'il faisait pas référence à ce passage, il faisait plutôt référence aux petites choses du quotidien. Et à côté de ça, la série a fait en effet une petite vanne sur la place des enfants handicapés. Et puis là, c'est vrai que je suis d'accord avec Ecos, au sens où ils auraient pu aller plus loin. Bon, après, peut-être qu'ils le feront plus tard. Mais non, perso, en tout cas, je trouvais pas que c'était si déformé que ça. Et des retours que j'ai vus, c'était plutôt bien fait, quoi.
Ok, on va enchaîner sur la série suivante qui est Atlanta. Atlanta, c'est une série qui est diffusée sur FX, qui est produite, écrite et réalisée par Donald Glover, qui jouait Troy dans Community et qui est aussi quelqu'un connu pour faire du rap sous le nom de Childish Gambino. Donc ça raconte l'histoire de Earl, qui est joué par Donald Glover, et de son cousin, qui s'appelle Paperboy, qui est un rappeur de la scène rap d'Atlanta. Et Earl est un peu fauché et tente un peu d'être l'impresario de Paperboy. Et voilà, on va suivre le quotidien de ces deux personnages, plus un troisième qui est Darius, qui est un peu le sidekick de la bande, pour essayer de devenir un célèbre. Je trouve que Atlanta est une excellente série. C'est une des deux meilleures séries que j'ai vues dans toute la liste qu'on a fait ensemble. De toute façon, je suis pas très objectif, parce que Donald Glover, j'aime déjà énormément ce qu'il fait déjà en tant qu'acteur et en tant que rappeur. Plus en tant que rappeur qu'en tant qu'acteur d'ailleurs, c'est autant que beauty. Et là, il y a vraiment un truc, quoi. L'épisode 1 est excellent. L'épisode 2, qui se passe quasiment en huis clos en prison, il est excellent. Après, ça diminue un petit peu, mais il y a chaque fois, dans chaque épisode, il y a un truc à se mettre sous la dent. Il y a toujours un dialogue, un regard, un truc qui donne de l'émotion. C'est drôle, c'est touchant. L'épisode 6, qui est sur Van, qui est la copine de Earl, est hyper bien vu, très malin, ça dénonce énormément de sites américains, mais sans en faire des tonnes non plus. Et puis il y a l'épisode 7 qui est paru du coup la semaine dernière, qui est une pépite, qui est vraiment un truc incroyable. J'espère que vous allez arriver jusqu'à là pour le voir. Je sais que vous l'avez pas encore vu, mais ouais, je suis vraiment ultra enthousiasme. Il y a tout, quoi. Donc vraiment, il y a vraiment tout. Je trouve plus généralement que FX, c'est en train de devenir une énorme chaîne télé qualitative. Ils font que des trucs bien. Ouais, franchement, je suis séduit. Est-ce que c'était pareil pour vous?
Bah moi en fait ça a été la très bonne surprise de ce début de saison parce qu'au départ en fait j'avais pas du tout prévu de la regarder cette série et je l'ai fait uniquement parce qu'il y avait des retours positifs autour et parce que Kos tu avais voulu en parler dans le podcast et ça me parlait pas parce que tout simplement parce que le milieu du rap et c'est pas forcément un truc qui m'évoque quelque chose ou quoi que ce soit et les références dans le domaine sont très limitées. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que l'intérêt de la série était carrément ailleurs et que sous couvert de cette approche, c'était surtout, enfin, la série dit énormément de choses sur la société américaine et tout, sur la difficulté de trouver sa voie, d'être différent et j'en passe. Donc il y a cette espèce de mélange de comédie, de gravité qui font de cette série en fait, c'est clairement une dramédie et c'est une dramédie intelligente et raffinée en plus d'être nécessaire selon moi.
Oui, je suis d'accord que la série parle pas du tout de rap. Du coup, c'est pour ça que je sais, Galax, t'as pas aimé ça, parce que pour cette raison, justement, tu peux en dire plus.
Ouais, alors non, bah moi je vais faire le petit rabat-joie, j'ai pas accroché au pilote, je suis pas allé au-delà, et je pense pas que je vais y aller, je me laisse des portes ouvertes, mais bon, si tu dis toi-même qu'après ça baisse un petit peu au milieu de saison, ça m'encourage pas vraiment, bon, apparemment le 7 est génial, je veux bien te croire, mais ouais,
Le
je sais pas
7,
si
et
je
il y a
pourrais...
l'épisode 5, Nobody Beats the Beats, the Bib, qui est. Il y a un gag absolument génial. Après,
Ouais, un gag.
ouais, mais en fait, le truc, c'est que il y a toujours dans chaque épisode, il y a toujours un truc dont je sais dans 10 ans, je me souviens. Tu vois, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, tu vois.
Je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour en avoir vu dans les trois épisodes, il y avait toujours une scène qui m'a marqué, quoi, et qui me marquera, je pense, longtemps, quoi.
Même, tu vois, si c'est des épisodes que je note à 13-14, 13-14 c'est une bonne note, hein, mais 13, tu vois, c'est pas mal, sympathique. Il y a toujours un truc pour ça que je.
Ok, ouais, bah je sais pas, c'est peut-être pas du coup un format que j'aime bien de regarder un épisode pour attendre le moment, tu vois. Je sais pas, en tout cas, j'avais, pour parler juste du pilote, parce que c'est le seul que j'ai vu, j'ai eu beaucoup de temps, mais j'ai mis beaucoup de temps à entrer dedans. Genre, au moins, je pense aux 2 tiers du pilote, j'étais encore à me demander un peu ce qui se passait, qui était qui. Je sais pas si c'était une question peut-être de ma concentration ou si le pilote était mal agencé, que les scènes faisaient décousu, je crois que c'est ce que j'ai dit. Je trouvais que ça se faisait assez décousu dans l'ensemble, voilà. Et j'ai pas trouvé ça, pas trouvé ça drôle. Je pense que effectivement la série a pas mal de choses à dire, que Donald Glover il a pas mal de choses à dire et qu'il aurait peut-être mieux fait de faire ça juste sous format drama au lieu de comédie slash dramédie. Je sais pas trop. En tout cas, moi j'ai pas accroché. Je m'attendais à rien de spécial en plus parce que comme Kayan, je l'ai regardé juste parce que ça faisait du buzz et parce que tu voulais le regarder tu voulais l'inclure dans le podcast et que c'était un petit coup de cœur et tout ça. Et donc ouais, non, moi ça m'a, même si j'en ai rien attendu, ça m'a pas accroché du tout. Et juste pour le sujet du rap là, puisque tu m'as lancé dessus, oui, alors le rap et moi, pareil comme Kayen, j'ai pas trop d'attache particulière. Et je pensais que la série allait aborder ce sujet. Elle l'a pas vraiment fait, donc bon après, voilà, donc, je peux quand même apprécier en tant que sitcom banal, tu vois. Mais non, même comme ça, donc enfin ça a enlevé un peu une chance à la série de me convaincre en parlant peut-être d'un sujet que je connais pas du tout et qu'elle me fera apprécier malgré cela. Et donc non, voilà. Mais bon, je suis content que ça vous plaise et ça a l'air de qualité, donc je vais pas mettre un avis non plus. Ne regardez pas cette série absolument. Hein, vous pouvez. Moi, je conseille de tenter le pilote et de voir ce que ça fait, quoi. Voilà.
Le sujet de rap, la musique en général, est abordé dans l'épisode 3 et l'épisode 4 surtout. Ce que tu peux faire, si vraiment tu as le temps et l'envie, c'est de regarder l'épisode 7 qui est complètement détaché du reste de la série. Pas besoin d'avoir vu ceux d'avant.
Ah, tu peux regarder le 7 direct comme ça.
Complètement, complètement. Si t'as bien Community, le 7, ça devrait aller.
Et tu penses pas que genre pour apprécier le 7, c'est quand même, enfin, faut quand même avoir plutôt vu les 6 précédents parce que sinon, je risque de, tu vas pas apprécier le 7 à sa juste valeur ou autre.
Absolument pas,
Ou
parce que
non.
c'est détaché. Enfin,
C'est
je peux pas
vraiment
expliquer
détaché.
pourquoi c'est détaché, mais c'est
Ok,
détaché du
ok.
reste.
Je vais peut-être faire ça alors, tenter le pilote et puis tenter le 7 et si jamais les deux plaisent pas du tout, bon bah voilà.
Parce que
Mais je vais peut-être tenter le
le
7
riff
alors.
qui te manquait un peu dans le pilote, je pense que tu l'auras dans le 7. Bon, il y a deux scènes dans le 7. On va enchaîner sur MyGamer. Est-ce que tu peux faire un petit résumé MyGamer 2016?
Mais bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas nés entre 85 et 92, ou pour ceux qui auraient juste loupé les multiples
Salut.
rediffusions françaises.
Vas-y, désolé, je t'ai interrompu. Je dis juste salut en référence à ceux qui étaient nés il y a très longtemps. Voilà.
Ok, grand moment de bug, excuse. Donc, pour faire un petit rappel, bah, MacGyver, c'est l'histoire d'un aventurier très intelligent qui s'appelle MacGyver. Et Mac, il est capable de bricoler tout et n'importe quoi pour défendre la veuve et l'orphelin. Donc pour toute une génération de téléspectateurs, et surtout de téléspectatrices, ce Mister Bricole, ce pro de la débrouille, était et restera incarné par le charismatique Richard Dean Anderson, à l'époque doté d'une magnifique coupe mulet qui lui sied à merveille. Donc, pourquoi je raconte tout ça? Parce que bah, MacGyver, cette série qui vient d'arriver, n'est qu'une adaptation de cette série diffusée entre 85 et 92. Et a rejoint cette fameuse mode qui est en ce moment à la télévision américaine, celle des reboots, des séries dérivées et autres adaptations. On a eu Heroes Reborn, on a eu la fête à la maison des années après, il va y avoir 24, Prison Break et j'en passe. Donc il fallait bien qu'il y ait une chaîne qui décide à un moment ou à un autre de réadapter notre aventurier des années 80-90. Et cette chaîne, c'est CBS. Et croyez-moi, je vais pas l'en remercier, bien loin de là. J'ai fait le choix de ne même pas regarder le pilote. Donc j'entends déjà les cris de certains m'accusant de juger quelque chose que je n'ai même pas regardé. Mais je vais être honnête. Alors déjà, ils ont tout à fait raison de me crier dessus parce que c'est pas bien de juger quelque chose qu'on n'a pas regardé. Mais je veux aussi être honnête avec eux en leur disant que j'ai pas du tout besoin de jeter un œil à cette adaptation pour savoir qu'elle m'intéressera absolument pas. Et la raison en 3 points, c'est premier point, pour moi, il n'y a qu'un seul MacGyver et c'est Richard Dean Anderson. Je
C'est
suis
vrai.
catégorique. Et il y a des personnages comme ça qui sont condamnés à être constamment associés à leur interprète original et là c'est le cas quoi. J'ai pas besoin de regarder la série pour en avoir le cœur net. Deuxième point, j'en ai juste marre des remakes et des reboots. Je vois pas l'intérêt de s'obstiner à vouloir faire revivre des programmes cultes qui de toute manière ne s'adressent plus au public d'aujourd'hui. Attention, j'exclus de cette liste tout ce qui est suite, comme la saison 3 de Twin Peaks, parce que Twin Peaks, c'est bien et qu'on n'y touche pas, c'est tout, tu vois. Troisième point, au lieu de regarder le remake, je conseille plutôt aux plus curieux d'entre vous de regarder l'original. Ce sera tout aussi drôle, tout en étant beaucoup mieux. Alors ouais, je sais, c'est très vieux jeu de dire un truc comme ça, mais pour moi, c'est la vérité, quoi. Maintenant, je laisse la parole à Cos parce que je sais que tu as vu le premier épisode et que je pense que tu es le plus à même d'en parler, donc c'est à toi.
Bah, je suis le seul à l'avoir vu, parce que Galax l'a pas vu non plus. Je rejoins sur un point, c'est que le pilote MacGyver Origin est très bien, enfin est vraiment bien. Je l'ai regardé la semaine dernière et ça se tient toujours debout. Oui, Richard Anderson, vraiment le personnage pile qu'il fallait, il y a un fun et une décontraction qui est vraiment plaisante à voir. Pour ce qui est cette version de 2016, c'est fabuleux, c'est du pur génie en fait. Je pense que c'est le pire pilote que j'ai eu de ma vie, pourtant j'en ai eu des sacrées merdes. Surtout ces dernières années entre Dads et puis Selfie.
C'est pire que Selfie.
C'est pire que Selfie. C'est pire que Selfie.
C'est pire que Selfie.
Ouais, c'est pire que Selfie.
Non.
Si, si. C'est parce que Selfie, je voyais le potentiel qu'il pouvait éventuellement y avoir derrière. Là, il n'y a rien
Bah oui.
du tout. Rien du tout. C'est fantastique parce que ça dure 52 minutes. Et pendant 52 minutes, c'était les années 2000. Parce que, en fait, j'avais réussi à remonter le temps puisque c'est tout l'esthétique, la direction artistique des années 2000 avec des teintes bleutées. Honnêtement, tu regardes, je pense que tu regardes le pilote des experts. Et tu regardes ça à la suite, tu vois pas du tout de différence d'un point de vue de la lumière, d'un point de vue de la direction des acteurs, d'un point de vue de ce qui est à l'écran et de ce qui est montré à l'écran. Il y a absolument mais rien dans ce pilote, c'est hallucinant. Ça prend vraiment le spectateur pour un débile mental total, pour un abruti, pour un abruti plus qu'un débile mental. Parce que, exemple, tu vois, le personnage de MacGyver fait un truc à l'écran, qu'il le commente en voix off, comme dans le pilote original, comme la série originale. Et en plus, c'est marqué à l'écran sur ce qu'il vient de faire. Donc, par exemple, tu vois, il prend du carbone et marqué « Je prends du carbone. Ça m'a été utile. » Et ensuite, à l'écran, il y a marqué « Carbone. » Putain, les mecs, arrêtez, quoi. Et donc, tout est comme ça, tout est répété plusieurs fois, martelé jusqu'à ce que ça devienne abrutissant pour le spectateur. On assiste, par exemple, ça commence par un flashback. Et après, une scène après, le personnage de MacGyver est traumatisé par ce qui s'est passé dans le flashback. Et on revoit la scène qu'on a vue, genre, une minute avant, quoi. Les gars, on était là, tu vois. Pas le toilette entre-temps, je me souviens de ce qui s'est passé avant. C'est ouf. Il y a George Eads qui joue dans Les Experts qui est nul à chier. Il y a l'acteur Vinnie Jones qui est un acteur aimé par Guy Ritchie qui est nul, qui joue le méchant, mais qui est nul à chier. L'acteur principal qui est mauvais aussi, c'est ouf. Alors ce qui me fascine le plus, c'est qu'ils ont retourné le pilote parce que le premier n'était pas assez bon. Et j'ai qu'une envie, je peux vous dire, c'est de choper ce putain de premier pilote. Il est introuvable pour l'instant, j'ai pas réussi à le trouver. Mais ça fait une semaine et demie, 2 semaines là, que je cherche. J'ai vraiment envie de le mater, que j'ai vraiment envie de voir la différence. On peut voir la différence entre les deux bandes annonces qu'ils ont fait plusieurs bandes annonces. L'actrice notamment a changé, c'était une brune avant, maintenant c'est une blonde. Mais l'actrice qu'ils ont pris à la place, elle est horrible, elle est nulle. Donc ouais, c'est ouf. Enfin, vraiment, si vous voulez vous marrer avec des potes, je vous le conseille, c'est d'une débilité totale, quoi. On va enchaîner sur la partie drama de notre podcast. On va commencer par This Is Us.
Ouais, This Is Us. Pour faire court, c'est l'histoire de quatre Américains. Kevin, un comédien raté, sa sœur jumelle Kate, qui souffre d'obésité, Randall, un Afro-Américain adopté à la naissance, et Jack, un père de famille qui s'apprête à devenir papa. Donc, il n'y a pas plus simple hein, comme pitch. On peut pas dire autre chose du coup. Moi, je vais être honnête. J'ai adoré cette série, mais je vais quand même essayer de rester objectif. Je vais d'abord dire les points positifs. Donc, premier point positif pour moi, c'est la construction narrative. Je peux pas dire vraiment, je peux pas en dire plus, mais il y a un système qui se met en place dès la fin du premier épisode qui permet de comprendre enfin, il y a une construction narrative intéressante, mais je peux pas en dire plus là, sans spoiler davantage la série. Mais en tout cas, c'est intéressant. L'autre point positif, c'est la dédramatisation. La série, elle pourrait facilement basculer dans le mélodrame à outrance en accumulant toutes les scènes possibles du genre. D'ailleurs, elle se fait plaisir là-dessus, hein. Il y a quand même plein de moments où elle propose des scènes quand même très dramatiques, mais elle parvient toujours quasiment à tourner ces scènes en dérision pour les rendre plus légères. Du coup, on se retrouve avec un mélo qui mêle habilement gravité et légèreté, et c'est plutôt pas mal. L'autre point positif, c'est les personnages. Pour moi, c'est une réussite parce qu'ils sont très vite devenus attachants. Il y a quelques maladresses du côté de Randall, l'enfant, enfin, l'afro-américain, mais dans l'ensemble, je me suis quand même très vite attaché à eux et c'est essentiel dans ce genre de série. L'autre point positif, c'est la manière qu'elle a de détourner les clichés. Ici, une femme obèse peut très bien être la sœur jumelle d'un beau gosse et l'afro-américain de la famille, peut très bien être celui qui réussit, le mieux professionnellement. Donc, le dernier point positif, c'est le casting. Parce que moi, je trouve que les comédiens font le job et que ça fonctionne vraiment très bien entre eux. Je trouve qu'il y a une très belle alchimie entre les acteurs et tout, et ça donne un résultat très convaincant. Maintenant, il y a quand même des points négatifs. Le premier, c'est les maladresses. Enfin, à force de vouloir tourner en dérision certaines scènes, la série perd parfois en crédibilité. Et l'autre point négatif qui va venir nuancer l'un de mes points positifs. Tout à l'heure, je parlais de la faculté qu'avait la série à dédramatiser certaines situations. Eh bien, j'ai relevé dans le deuxième épisode des petits moments de surdramatisation qui m'ont fait quand même grimacer. Donc, il va falloir faire très attention. En tout cas, pour que les prochains épisodes, en tout cas, il va falloir que la série fasse attention de pas trop en faire non plus. Dans le mélo, pour éviter de passer de séries touchantes à séries plombantes. Parce que il y a quand même des moments où elle va un peu loin et ça peut très vite devenir plombant aussi. Donc voilà ce que j'avais à en dire.
Ok.
Alors, pour ma part, j'ai aussi beaucoup aimé la série. C'est pour ça que je prends la parole maintenant parce que Koss, spoiler, c'est un peu, n'aura pas trop aimé. Donc voilà, il fera un peu le contrepoids. Donc j'ai beaucoup aimé la série, mais pour des raisons plutôt assez différentes de ce que tu viens de dire, Kaya. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui est le listing de des qualités de la série, c'est-à-dire les acteurs top, l'alchimie, les personnages super attachants, ça c'est une évidence. Le pitch de la série est super simple, mais extrêmement efficace. Et d'ailleurs, ça fait un carton, c'est pas pour rien, je pense, parce que voilà, suivre la vie des Américains et tout. Maintenant, moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé quasiment. Aucune tentative humoristique de la série, je trouve ça tombé à plat. Et perso, le contrat que j'avais avec la série, c'était de regarder un mélodrame à mort avec plein de bons sentiments, et c'est ce à quoi je m'attendais. Et donc c'est ce qu'on a eu clairement, hein, parce que pour ma part, dès le premier épisode, on sort les violons, on sort les mouchoirs, il y a plein de scènes, extrêmement dans le pathos. Et je pense que la série, si elle avait vraiment fonctionné, pour ma part, il faudrait qu'elle fasse plus de ça. Je suis désolé, parce que tous les moments de dédramatisation. C'était pas réussi pour ma part, surtout avec Randa, en effet, tu l'as dit, avec l'enfant adopté. Ça a vraiment pas fonctionné, les tentatives d'humour pour alléger la situation, ça marchait pas, je me sentais gêné, alors qu'à côté, la série, elle en faisait des caisses avec plein d'intrigues et que surtout l'intrigue de l'acteur. Donc voilà, d'un côté, elle en fait des caisses, de l'autre côté, elle essaye de faire de l'humour, ça marchait pas, pour moi, elle doit choisir. Et pour moi, de plutôt choisir du côté d'en faire des caisses, parce que tant qu'à faire un pur soap, mélodrame, machin, autant le faire à fond, quoi. Parce que sinon, je pense que ça va me désintéresser et que je vais me lasser justement si elle essaye trop de faire dans le décalé et en même temps d'essayer de nous faire pleurer toutes les deux trois scènes. Donc voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup le fait que ce soit très purement assumé, un show autour des personnages avec leur vie, leur haut, leur bas, le mélodramatique, soap par excellence. Et j'espère qu'elle continue plutôt comme ça. Et je confirme aussi juste un truc quand même que effectivement la narration de la série est extrêmement originale et que si vous tentez le pilote et que le début peut-être ça vous plaît pas, restez jusqu'à la fin parce que voilà, il se passe des choses et ça devient extrêmement intéressant. Et ça ajoute aussi un plus à l'originalité de la série. Voilà. Et donc maintenant, vas-y, peut-être que tu peux réagir quand même sur ce que j'ai dit sur la comédie, parce que je sais que t'as un avis différent.
Ouais, je veux juste revenir parce que ouais, c'est en fait ce que je cherche pas forcément. Enfin, j'ai pas trouvé la série drôle à aucun moment. Hein. Quand je dis dédramatisation, c'est par exemple dans les scènes avec Kate quand elle est dans ses réunions avec les personnes obèses et tout. Beaucoup de séries auraient fait le choix de la facilité en faisant un truc hyper pathos avec un moment hyper dramatique où chacun se confie sur ses problèmes de poids et tout. Alors là, ils apportent des petits moments de légèreté, pas forcément de comédie, mais de légèreté où on voit le personnage qui se met parfois à rigoler de sa propre situation. Et je trouve que c'est une approche plus intéressante que le truc où on veut absolument faire un truc dramatique, même si après, forcément, il y a des, on la revoit plus tard douter et tout parce que ça va dans la logique. Enfin, je veux dire, je demande pas à ce qu'elle soit tout le temps souriante et tout, mais c'est, moi, je trouve ça bien aussi que qu'il y ait ces petits moments de légèreté qui viennent contrebalancer le l'aspect un peu dramatique de la série parce que bah trop de mélodrame après c'est, enfin, ça devient indigeste aussi. Donc voilà.
C'est déjà un dieu. Les gars, c'est déjà un dieu de votre série. j'ai pas du tout aimé Jesus, comme Galaxy tu as dit. C'est vraiment ultra sirupeux, dernier degré. Beaucoup de bons sentiments, effectivement. Qui, moi, alors, effectivement, comme tu dis, Galaxy, t'as raison, j'avais pas remarqué ça en voyant, mais ils tentent toujours de dédramatiser, hein, à chaque fois, un peu comme s'ils n'assumaient pas du coup le côté guimauve du truc. C'est déjà extrêmement, quand même, la barre, quand même très très chargée, quoi. Je trouve que la série en fait des caisses en termes d'acteurs, en termes de mise en scène sur ce qu'elle a raconté. Il y a un truc aussi qui m'a un peu agacé. Il y a un personnage qui est joué par Justin Harnett, qui est l'ancien Green Arrow de Smallville, l'ancien Aquaman aussi de Smallville d'ailleurs, qui joue dans une espèce de sitcom qui s'appelle The Nanny, du coup, où il joue un beau gosse qui s'occupe d'un enfant. Et il fait un pétage de plomb, du coup, dans un épisode, et voilà, et du coup, il faut en faire en l'air sa carrière. Et t'as un peu une scène similaire, en fait, dans la vraie fausse sitcom, où il s'engueule, en fait, avec son père, qui est joué par Alan Thicke. Et tu retrouves un peu cette même dynamique dans la série en tant que telle, entre deux personnages. Un personnage qui est son père aussi, tout pareil. Et en fait, t'as un peu une critique de, oh, regardez, l'émotion passive, les sitcoms, c'est nul, mais nous, regardez, on fait des vrais sentiments, avec des vrais gens. Et ça, je trouve ça, mais vraiment ultra maladroit, quoi. Et même un peu cynique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui te permet de dire que toi, ton émotion que tu véhicules dans ta série est meilleure que celle que tu critiques dans la parodie de sitcom que tu fais dans ta propre série? Tu arrives à me dire ça. Mais ça m'a agacé, quoi. Il y avait un côté, ah ben regardez, les autres sont nuls, mais nous on est vrai, quoi. Nous on est vraiment vrai. Je sais pas, ça vous a pas interpellé, ça, ce petit passage?
Non, moi je disais juste que moi je l'avais pas interprété comme ça. Enfin, ce passage-là, oui, je voyais très bien qu'il y avait une réflexion sur les sitcoms et sur comment on produit des sitcoms aujourd'hui et tout, et ce qu'on demande aux comédiens et machin. Mais moi je voyais pas ça comme. Par contre, j'avais vraiment pas l'impression que c'était le but de la série à ce moment-là de délivrer un quelconque message sur autour de ça en fait. Enfin, en tout cas, moi je l'ai pas perçu comme quelque chose de prétentieux ou et j'avais même plus impression que c'était quelque chose où la série reconnaissait elle-même qu'elle fonctionnait un peu sur des principes qui étaient pas loin de ce qu'elle était en train de dénoncer quelque part. Enfin, en tout cas, moi je l'ai pas perçu comme quelque chose de prétentieux, quoi.
Même chose, mais je peux comprendre, Cos, tout à fait, que tu trouves ça vraiment débordant de bons sentiments et trop hypocrite sur son truc, parce que c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme ça. Mais personnellement, ça m'a pas dérangé. Et si on s'avance, enfin, si on se lance dans cette série, faut avoir ça à la tête, faut se dire dès le départ que oui, il y aura plein de bons sentiments et qu'on pourra pas y échapper, quoi. Parce que sinon, voilà.
Bah, de toute façon, clairement, c'est une série. Faut aimer les mélos pour regarder. Si on n'aime pas les mélos, il n'y a aucun intérêt à la regarder, par contre. Enfin, je pense.
Ouais, ça va être. On peut pas aimer les
Ouais, c'est
mélos.
sûr. Je dirais même, franchement, faut aimer les soaps, hein, parce que ça a des airs de soap avec vraiment la vie des personnages et comment ils ont les relations, quoi. Il n'y a pas de piste dramatique à part chaque personnage a des malheurs. Voilà. Et voilà.
Mais on peut faire véhiculer de l'émotion et que ça soit simple. Tu vois, par exemple, comme dans Frequency, on va parler tout de suite. Il y a de l'émotion, c'est simple. Et des messages,
Quelle transition.
on fait pas des caisses.
Oh, mais Frequency, c'est quand même très différent de This Is Us.
Oui, bien sûr, mais en termes d'émotion, il y a un vrai truc qui en fait comme ça. Bon, vas-y.
Alors, on y va. Donc, Frequency, c'est une série sur la CW qui est inspirée d'un film et qui raconte l'histoire d'une jeune policière qui a perdu son père il y a des années. Elle retrouve son ancienne radio, l'ancienne radio de son père dans son garage, il me semble, et elle se met à communiquer avec lui dans le passé. Voilà, ça fait une série assez SF, et toute la série est basée sur le fait que la fille connaît la suite des événements pour son père, elle sait comment il va mourir, et quand il va mourir surtout, très bientôt. Et l'interaction des deux, en fait, va complètement bouleverser le présent. Voilà, ça va modifier l'histoire et tout va se retrouver chamboulé. Et donc voilà, tout le pilote va raconter leur rencontre, et après la série va se concentrer sur la relation, enfin même dès le pilote, on peut dire, ça se concentre vraiment à fond sur la relation entre le père et la fille. Frequency, c'est génial, donc moi j'ai vraiment adoré cette série. Donc c'est effectivement, ça joue beaucoup beaucoup sur le lien entre le père et la fille, et c'est pour ça que ça marche beaucoup. Dès le début, on sent la relation entre les deux. Ils se parlent peut-être 3 fois à travers la radio dans le pilote, et ça marche super bien. Et la série a l'intelligence de nous faire suivre des deux époques. En fait, on voit à la fois la vie de la fille dans le présent et la vie du père donc dans le passé. Et donc voilà, ça, c'est plein d'idées géniales. Il y a plein de rebondissements dès le premier. On sait pas encore comment la série va réussir à tenir une saison, mais il y a largement de quoi faire au moins plusieurs épisodes sur le même principe. C'est vraiment un pitch super fort, donc qui est inspiré d'un film, donc c'est pas totalement original, surtout si vous avez vu le film. C'est le film s'appelait Frequency, je crois. Enfin, je l'ai pas du tout vu.
Oui,
Enfin bref,
Frequency,
et
c'est
donc
ça.
ouais,
Même
Frequency.
titre. Bon.
Voilà. Et donc là, je crois que c'est au pluriel du coup. Enfin bref, ça revient même. Et du coup la série, voilà, le pilote était super. Le deuxième, est-ce qu'il je sais pas s'il a déjà été diffusé, il me semble que j'en ai vu qu'un seul.
Il a été diffusé, il y a deux.
Il a déjà été
On enregistre
diffusé?
le 15 octobre, il a été diffusé le 13.
Ok, d'accord. Ok, bah, je l'ai pas encore vu, mais franchement, ça a l'air super bien. C'est super bien lancé. Je pense que ça peut tenir vraiment pas mal de temps, en tout cas sur une seule saison. Et comme je le disais, il me semble que la série va sûrement pas avoir de deuxième. Donc au final, il n'y aura pas de risque que ça s'essouffle beaucoup trop et que ça devienne super redondant, parce que la CW, des fois, moi j'aimais beaucoup Jane the Virgin en première saison, mais la deuxième j'ai décroché parce que clairement ils avaient plus d'idées, quoi. Ils avaient une super idée pour la première saison et après ils savaient plus quoi faire. Donc bon voilà, en regardant Frequencies, au moins je pense que je suis sûr qu'on aura une bonne saison dans l'ensemble, et j'espère que la série va vraiment tirer parti de tout ce qu'elle a lancé dans le premier épisode, parce qu'elle a lancé pas mal de choses. Et voilà, elle a de vraies qualités. Et donc bon, allez, je vous laisse parler.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il y avait vraiment tout pour que je déteste. Espèce de pitch SF avec un cop show. On a déjà vu ça 1000 fois. Mentaliste, ce genre de choses. Là, c'est excellent. Et ça fonctionne parce qu'en fait, l'alchimie entre les deux acteurs, entre le père et la fille, est excellente. Tu le dis, il y a 3 scènes dans le pilote, mais je me souviens exactement des 3 scènes. Je me souviens exactement de ce qu'ils disent dans les 3 scènes. Donc la relation père-fille fonctionne du tonnerre, quoi. L'actrice principale qui jouait dans Mad Men, je crois, Galaxy, tu confirmes?
L'actrice principale, alors attends, l'actrice principale, ah,
Ouais, elle
j'arrive
jouait dans
pas à
Mad Men.
l'avoir
Elle
en
jouait
tête,
Jane
c'est
Sterling dans Mad Men.
sûr. Elle joue qui?
Elle jouait Jane Sterling dans Mad Men.
Jane Sterling. Ah, mais oui, maintenant, mais oui, j'étais sûr que je la connaissais en plus. Ouais, d'accord. Oh, elle avait pas un super rôle dans Mad Men, hein, mais bon, voilà.
Ouais, et moi, je l'ai vu dans Tomorrow People, je l'ai vu dans d'autres trucs. C'est pas une actrice extraordinaire. Et là, elle est vraiment très bien, quoi. Il y a un truc qui fonctionne dans son jeu d'acteur qui fonctionne bien. Et elle porte complètement la série. Le père est un petit peu plus faible, mais elle est vraiment très bien. Et puis, ouais, ça fonctionne, quoi. À partir de ce moment-là, à partir du moment où t'es engagé avec tes personnages, c'est la preuve que il suffit juste d'être attaché au personnage. À partir du moment où t'es attaché au personnage, ça fonctionne. Dans This Is Us, ça m'a gavé parce que les personnages, ils m'ont rien renvoyé. Là, dans Frequency, ça a marché parce que elle m'a renvoyé un truc, une émotion, quoi. Et du coup, à partir du moment où les personnages sont solides et que t'es attaché à eux, bah, l'histoire elle peut se dérouler tranquillement, quoi. Donc ouais, je suis très content. Je sais pas s'il y aura une saison 2. T'as l'air de dire que non, Galaxy, effectivement, c'est ce que j'ai vu
Ouais,
aussi.
apparemment il n'y en aura pas.
Donc ouais, ça fait vraiment un show de network, une sorte de cop show régulier qu'on a vraiment eu le voir, quoi. Ouais. Vraiment une bonne découverte, bon truc que je vais regarder jusqu'au bout, sans problème.
J'ai bien aimé aussi.
On aime tous Stanley.
Non, j'ai vraiment bien aimé. C'est comme vous, l'approche, je trouvais hyper originale. Enfin, je trouvais que dans toutes ces séries là qu'on a en cette rentrée, qui parlent de voyage dans le temps ou de choses comme ça, qui jouent sur les temporalités, je trouve que pour le moment, c'est celle qui m'a le plus convaincu au niveau de ce mélange-là. Et je trouve qu'elle mélange très bien ces deux temporalités, passé, présent, et tout. Et l'autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que tu disais, Cos, tout à l'heure. On aurait pu croire que ça allait être un cop show classique, parce que moi personnellement je voulais pas la regarder la série, et parce que moi je pensais qu'on allait partir encore sur un format standalone avec des épisodes où le père et la fille allaient résoudre des enquêtes à chaque épisode ou des choses comme ça, et en fait pas du tout. La série a mis en place une véritable mythologie, et même au niveau de l'enquête policière qui accompagne cette mythologie, c'est un truc autour d'un tueur en série qui sévissait dans les années 90 et tout. Et je trouve ça intéressant parce que bah ça évite ce fameux format standalone qui moi m'aurait vite gavé et m'aurait pas intéressé. Alors que là, bah ça fonctionne très bien et pareil, j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour les personnages et beaucoup plus que pour ceux de Timeless dont on va parler après, parce que je trouve que cette série justement se concentre principalement sur la relation de cette fille avec son père et on est tout de suite dans quelque chose qui relève de l'intime et de la famille, et moi je trouve que ça facilite davantage l'identification et bref, enfin ça fonctionne très bien quoi.
Ok, on est tous d'accord. On va
Donc c'est
enchaîner.
l'unanimité. C'est la première
Magnifique.
série, il me semble, de ce podcast, nous sommes tous d'accord.
Non, la première aussi.
Quoi?
La toute première dont on a parlé.
Ah oui, The Good Place. Ouais, The Good Place, mais t'étais un peu plus réservé. Mais oui, c'est
Oui.
vrai. Enfin bon, Frequency, c'est génial, voilà, j'en étais sûr. Et c'est vraiment super, regardez le premier, vous allez aimer en principe.
Merci Galax
Ouais, merci
d'avoir
Greg.
ajouté cette série dans la liste.
C'était pas prévu. On va enchaîner sur Timeless.
Pas de problème. Alors, Timeless, oui, donc c'est l'autre nouveauté SF de NBC. Gaïan, tu l'as très bien dit, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais tous les networks ont voulu faire leur série du voyage dans le temps. Il y en aura d'autres dont on parlera pas dans le podcast, mais il y en a d'autres à venir. La Fox va faire son
J'ai
show.
vu Making History, hein, c'est ça?
Making History va faire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Fox, je crois, qui va le faire. Qui a l'air pas mal aussi. Et il y en a une autre, par contre, avec un truc, je crois que c'est sur ABC, qui a l'air complètement pourri, par contre, avec Jack Léventreur ou je sais plus trop quoi. Enfin bref. Et donc ouais, Timeless, ça c'est sur NBC. Alors le pitch c'est une historienne jouée par Abigail Spencer, qu'on a vu dans Rectify et dans plein de choses, très bonne actrice, un militaire et un ingénieur sont tous les trois recrutés par une organisation bossant sur un projet top secret de capsule temporelle. Et donc en fait, ils avaient une capsule temporelle, ils se la sont fait braquer par des voyageurs temporels un peu criminels qui tentent de retourner dans le passé pour modifier l'histoire. Et donc ils appellent les trois là, l'historienne, le militaire, l'ingénieur, pour utiliser une sorte de deuxième capsule temporelle de secours, quoi, et pour aller les traquer et pour les empêcher de modifier l'histoire. Et donc la série nous embarque à chaque épisode, donc ça va changer à chaque épisode une destination différente, une partie de l'histoire. Dans le premier épisode, c'est le drame sur le crash d'un dirigeable dans les années 40 ou 50, il me semble. Et le deuxième épisode, par exemple, ce
Années
sera
30, les années 30.
l'assassinat des années 30, pardon. Voilà. Et le deuxième épisode, c'est l'assassinat de Abraham Lincoln. Voilà. Donc, changement complet de registre. Ça reste toujours dans l'histoire américaine, par contre. Et voilà. Et le pitch principal, enfin, une des conséquences principales de ce pitch, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent dans le présent, c'est plus le même monde qu'ils ont connu. Ils ont changé l'histoire. Voilà. Donc, moi perso, j'ai le pilote. J'ai trouvé avec plein de défauts quand même. Le pitch est super mal amené. En 10 minutes, on rencontre tous les persos. Ils sont franchement assez mal définis. On s'attache pas à eux, clairement. Ils sont projetés dans le monde et ça y est, pendant 20 minutes, ils traquent le tueur qui s'appelle Flynn, enfin le criminel qui s'appelle Flynn qui veut changer l'histoire. Ils rencontrent deux trois personnes du dirigeable. Il y a une scène où super nanard où ils sont enfermés par la police. Ils arrivent à s'échapper de prison avec une épingle à cheveux. Enfin, complètement, vraiment des scènes d'action ridicules. Et la fin, voilà, il se passe un truc, ils reviennent dans le présent. C'était très bizarre. C'était super entraînant parce que les mystères étaient extrêmement bien. On avait extrêmement envie de savoir ce qui allait se passer. La fin, le retour dans le présent change tellement de choses que on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Mais pour tout le reste, franchement, j'avais super peur. Les personnages, zéro, les incohérences et les grossièretés, les scènes d'action, zéro. Mais voilà, après, j'ai eu le deuxième épisode et ça allait être soit, comment dire, il me semble qu'il y a que moi qui l'ai vu ici, vous pouvez confirmer.
Oui, il n'y a que
D'accord,
toi. Ouais, j'ai pas vu
donc
le deuxième non plus.
je vais rien spoiler, vous savez juste que ça parle d'Abraham Lincoln. Donc ça allait être soit la désillusion, soit la confirmation, en gros, parce que vu que le premier était genre très, avec beaucoup de potentiel, mais qu'il avait des défauts de série, vraiment série Z à mort. Le deuxième, il est beaucoup beaucoup mieux à mon avis. J'ai vraiment beaucoup plus accroché. Les personnages, enfin, il y a beaucoup moins de scènes. Il y a toujours des petites aberrances, très 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 grosses, mais limite ça fait un peu un petit côté nanar sur deux trois scènes quoi. Mais l'histoire devient vraiment intéressante et de quoi faire pas mal de théories et surtout il y a un petit aspect doctoraux, je crois que j'ai dit, qui me tente beaucoup parce que si à chaque épisode on va voir une nouvelle partie de l'histoire américaine. Voilà, je trouve que ça peut être très très prometteur. Et donc voilà, maintenant qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Ouais, tout comme toi, Galax, je vais être rapide. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord à 200%. C'est débile. Au début, tu regardes la série, il y a des incohérences de ouf, c'est cliché, il y a des conneries d'écriture et d'inconscience scénaristique vraiment assez affligeante. Le personnage du militaire, il est horrible. J'avais envie qu'il meure toutes les 2 minutes. Vraiment, je voulais rentrer dans
Ouais.
l'écran et lui foutre des baffes, quoi. Mais putain, et en fait, à la fin, les 5 dernières minutes, là, putain, ça m'a donné envie de voir la suite, quoi. Il y a un fil rouge assez intrigant, qui est basé en partie sur des théories temporelles. J'ai l'impression quand même qu'ils vont quand même faire n'importe quoi avec le temps. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, il n'y a quasiment aucune œuvre qui arrive à gérer les théories temporelles, y compris Doctor Who. Mais ouais, il y a un truc, quoi. Il y a un truc chaleureux. C'est un peu une série guilty pleasure nanar, c'est-à-dire que c'est un truc que tu mates. Ça vaut en dessous de 10, hein, au-dessous de la moyenne, mais tu mates quand même, tu mets avis favorable sur le site parce que t'es content du truc, t'es content d'avoir vu ça. Je vais pousser jusqu'à l'épisode 2 si j'ai le temps, je suis pas sûr que j'ai le temps pour le faire. Mais ouais, je le conseille, c'est sympathique, je le conseille.
Bah moi en fait j'ai pas beaucoup de choses à rajouter hein, parce que je crois que vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Moi comme vous je trouve qu'il y a plein de clichés, d'éléments déjà vus, c'est assez prévisible, c'était hyper téléphoné, il y avait plein de facilités, d'incohérences, ça allait très vite comme le disait Galax, ça c'est très juste. Je trouve que les personnages sont pas du tout bien dessinés, bien présentés et du coup ça facilite pas l'adhésion en fait au show quand même. Et du coup, après, il y a des tentatives de mettre en place des mythologies qui sont intéressantes, avec des petites questions, des petits mystères qu'on met en place et tout, et qui peuvent permettre de faire tenir l'ensemble sur plusieurs épisodes et tout. Mais sinon, ouais, c'est sympathique, mais c'est pas non plus, c'est pas le genre de série vers lequel j'irais spontanément jeter mon dévolu. Surtout que premier épisode. Ce que j'ai adoré, c'est la présence de Chantel Van Santen, ou je sais pas
Oui,
trop
c'est
si ça
ça,
se
c'est
dit comme
ça.
ça,
Ouais, c'est ça.
qu'on a vu, que j'avais moi découvert dans One Tree Hill à l'époque et qui avait joué Patty Spivot dans The Flash.
C'est vrai, c'est vrai que c'est déjà dans le web. C'est vrai,
Et je l'aime beaucoup. Enfin, moi, je trouve qu'elle a, enfin, je trouve qu'elle est charismatique et qu'elle a... et malheureusement, elle meurt dès la fin du premier épisode. Enfin, excusez-moi pour. Mais
Ouais, je suis pas convaincu que tu risques pas de l'avoir, mais bon,
ouais, en tout cas, je trouvais ça dommage que, enfin, en tout cas, si on arrive, si on me dit qu'elle revient après, je serai présent.
je vais pas te dire si elle revient ou pas. En tout cas, je peux te dire juste un truc, c'est que l'histoire d'épisode 2, honnêtement, ça part, c'est beaucoup beaucoup plus surprenant que le 1, parce que le 1, effectivement, on a tous vu venir la fin, on voit tous venir le truc. Le 2, la série sait très bien qu'elle a des choses prévisibles, elle nous fait savoir et elle lance des trucs où on se dit, ah ouais, d'accord, j'ai aucune idée. Et elle est très surprenante, le 2 est très surprenant. Donc si vous pouvez voir le 2, je vous le conseille. Voilà.
Bah écoute, c'est ce qu'on va faire.
Ouais, t'as réussi à me convaincre.
Moi aussi.
Et Abigail Spencer est géniale comme toujours, je tiens à le souligner.
Bah qu'elle est pas mal. Alors elle a l'énergie en fait. Il y a un truc,
Elle dégage dans
t'as envie de la
l'épisode
suivre.
2, ouais, dans l'épisode 2, il y a une scène de ouf avec elle, vraiment. Elle dégage un truc à mort.
Ok, on va terminer par notre dernière série qui est Westworld. Alors
La
Westworld, c'est
fameuse.
la grosse série d'HBO qui a été vendue par la chaîne comme le nouveau Game of Thrones, avec beaucoup de guillemets. C'est une série produite par J.J. Abrams, écrite par Christopher Nolan, le frère de écrite par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, qui était au scénario sur la trilogie Batman et sur d'autres films de son frère. Sa femme aussi, Jonathan Nolan, est showrunneuse. Il y a Ed Harris, il y a James Marsden, il y a Geoffrey Wright, il y a énormément d'acteurs. Il y a Anthony Hopkins aussi d'ailleurs, qui joue
Anthony
un rôle
Hopkins, oui.
important, oui, qui est énorme. L'histoire, elle est assez simple. Ça raconte Westworld, qui est un parc d'attractions dans le futur dernier cri, où les visiteurs payent des fortunes colossales pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Donc c'est un monde où il y a à la fois des humains qui payent pour aller dans le parc et des robots qui sont là pour les divertir. Alors, ce que j'ai pensé de Westworld, c'est que c'est du pur génie. Mais pas dans le sens MacGyver, dans le sens vraiment pur génie. Il y a 2 épisodes pour l'instant qui vont être diffusés. Le troisième aura peut-être été diffusé d'ici la diffusion de ce podcast. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, c'est tout con à dire, mais j'ai l'impression que la série en fait a été faite pour moi, que Jonathan Nolan est venu me voir dans mon rêve et dans mon sommeil. Il m'a dit, viens, pas de soucis, gosse, on va faire une série pour toi. Il y a absolument tout, mais vraiment tous les trucs que j'aime dans les séries. C'est-à-dire qu'il y a des robots, ça parle de transhumanisme. Il y a des boucles temporelles, ça parle de voyage dans le temps. Il y a de la métafiction, hein, crevé comme jamais j'ai vu dans une série. Community largement battu là-dessus. Moffat est pulvérisé aussi. Il y a du western, j'adore le western, c'est un genre qui me fascine depuis toujours. Vraiment, c'est incroyable. Je suis amoureux de la série, mais comme jamais j'étais amoureux, je pense que depuis la saison 1 de Battlestar Galactica, j'ai pas connu ça en fait. dans un show. J'ai vraiment envie de voir chaque épisode. Je suis addict vraiment aux épisodes les uns après les autres. Je me tape des discussions de forums, hein, plus savoir quoi en faire, lire des théories, plus savoir quoi en faire. J'écoute des podcasts sur la série où des mecs discutent de points de détail pendant des heures. C'est fantastique. Et ce qui est même encore plus incroyable dans la série, c'est que non seulement c'est bien, c'est-à-dire que il y a tout qui est bien dans la série, c'est-à-dire que les acteurs sont bons, la lumière est bonne, la mise en scène est incroyable, les costumes, y a rien à dire. En fait, t'as l'impression que
La
Jonathan
musique.
Nolan, la musique, ouais, c'est une musique qui est faite par le compositeur de Game of Thrones. Jonathan Nolan, il a pris les bonnes personnes, il les a mis au bon endroit, et il les a fait bosser. Il a pris la personne qu'il fallait au bon endroit, à la bonne place. Et du coup, ça fonctionne du tonnerre. Et non seulement le discours sur la robotique est intéressant, bon, il est pas foufou, mais il est intéressant, mais le discours sur la métafiction, le méta et les jeux vidéo, je sais pas si vous avez joué aux jeux vidéo, je sais pas si vous êtes un peu amateur et connaisseur de jeux vidéo, mais ça fait quand même énormément penser au jeu qui s'appelle Red Dead Redemption, qui est un jeu de Rocksteady, qui sont les créateurs de GTA. Il y a une scène, une mission de Red Dead Redemption qui est reproduite à l'identique dans The Westworld, dans l'épisode 2. Enfin, voilà, c'est ce genre de truc, ce genre de détails. Il y a des clins d'œil à Fallout, il y a des clins d'œil à GTA, il y a des clins d'œil à plein de jeux, de mécaniques de gameplay, aux choix que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, est-ce que tu dois suivre, est-ce que tu dois prendre cette quête-là, est-ce que tu dois la refuser. C'est incroyable. Putain, si jamais les 8 épisodes suivants sont aussi bons que les deux premiers, c'est la meilleure saison que j'ai vue de ma vie. Et putain, j'en ai vu quand même des tas et des bonnes séries. Je sais pas si la saison 2 sera bonne, je sais pas s'ils vont aller jusqu'à combien de saisons, je crois qu'il y en a 5-6 de prévues. Mais en tout cas, s'ils arrivent à boucler cette première saison, on aura vu un chef-d'œuvre télévisuel.
Moi, je suis pas aussi addict que toi encore. C'est. Par contre, j'ai
C'est à
adoré,
venir.
mais je suis pas encore addict. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est une série hyper prometteuse, avec un concept fort. C'est hyper maîtrisé. Enfin, moi, pour le moment, j'ai vu que le pilote et c'était hyper maîtrisé. J'ai été assez impressionné par cette maîtrise, d'ailleurs. Le casting, il est impeccable. La mise en scène est soignée. C'est propre. Et surtout, les possibilités d'évolution et de développement sont tellement nombreuses, ça rend forcément le projet complètement exaltant quand même. Donc après, j'ai pas plus de choses à dire que toi parce que au final, j'étais quand même très enthousiaste après la diffusion du premier épisode. Donc pour moi, on a juste là la meilleure, enfin ouais, sans doute la meilleure nouveauté de ce début de saison, par contre.
Ah, je sais pas, mais c'est la nouveauté de l'année. Est-ce que tu as vu un meilleur truc, un meilleur pilote? Ah, je vais te poser une question. Quel meilleur pilote t'as vu que ça dans ta vie? Est-ce que t'as vu un meilleur pilote que ça? Oui.
Comme ça vient pas, ouais. Non, mais de toute
Ouais.
façon, sur le site, c'est la première fois, je crois, que je mets un 18 à un pilote, donc c'est.
À part Battlestar Galactica, en pilote, j'ai pas vu. C'est pas compliqué. T'en as pensé quoi, Galaxy?
Alors, comment passer après tant d'éloges? À part dire que pareil, c'était génial, hein. Le pilote était un des meilleurs pilotes que j'ai vu de ma vie, clairement. Je crois que je l'ai mis 16, mais je crois que j'ai jamais mis au-dessus de 16 pour un pilote, donc voilà. Le deuxième était aussi bon, voire même meilleur peut-être sur certains points, je sais pas, ou en tout cas
Meilleur
j'ai
sur certains
mis.
points, je suis d'accord.
Donc voilà, pareil, génial. Donc ouais, t'as tout dit en fait, le truc qui fait. En plus j'ai déjà fait une critique dessus, donc je vais essayer de pas trop me répéter, mais ouais, comme t'as dit, c'est genre, ils ont mis la bonne personne partout, donc t'as tous les points qui sont au top, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est sur la bonne chaîne. C'est-à-dire que la musique est ouf, j'ai déjà toute la bande son. C'est-à-dire que voilà, le scénario est top, la réalisation est top, les acteurs sont top, ouais, tout est top. Et donc voilà, c'est en effet, c'est clairement la meilleure nouveauté de l'année. Je pense que personne pourra détrôner cette nouveauté. Alors que pourtant, il y en avait pas mal que j'ai beaucoup aimé cette année, hein. Mais là, enfin, si toute la saison est, ne serait-ce que, même s'il y a un petit ralentissement dans la moitié, enfin, admettons dans la petite suite de la saison, que c'est un peu moins bien, mais que ça repart à la fin, bah, ça restera quand même une des meilleures saisons, quoi, effectivement. Et le potentiel est ouf avec les prochaines saisons qui vont peut-être changer d'univers, mais rester dans le même, évidemment dans la même, enfin plutôt changer de monde, mais rester dans le même univers, ce serait plus juste de dire ça. Et Picos aussi, comme t'as dit, surtout t'arrêtes pas de regarder les forums et les podcasts et tout ça. Faut souligner qu'il y a tellement de théories qu'on peut faire avec cette série que c'est ouf. J'ai l'impression que j'ai enfin réussi à trouver une série de mon époque qui peut refaire le phénomène de Lost, quoi. Parce que moi Lost, Je me suis vécu, enfin, je suis tombé dessus à la télé, j'ai pas suivi le phénomène, j'étais trop jeune et tout. Et là, j'ai enfin l'impression qu'on peut avoir une nouvelle série où pareil, on peut passer des heures à théoriser sur plein de points. Et donc ouais, c'est vraiment fantastique, quoi. Bon après, il y a quelques points, je crois que j'ai dit genre quelques points un peu confus, on va dire. Le méchant qui est un peu complexe, je trouve, enfin, pas vraiment complexe, mais trop mystérieux. Je comprends pas toutes ces scènes personnellement. Voilà, mais enfin, c'est juste vraiment pour être pour citer un défaut, quoi, parce que sinon tous les épisodes sont géniaux, toutes les scènes, on a l'impression que quand on les reverra, elles auront un autre sens. C'est vraiment fantastique, quoi. Donc voilà, Westworld, génial, je pense qu'on est tous d'accord.
Ouais.
Ouais.
On va terminer par nos coups de cœur. Je vais commencer par par parler des coups de cœur, un truc qu'on a vu dans cette rentrée ou en ce moment qu'on regarde à la télé, qu'on a bien aimé. Moi, je vais parler de Fleabag, qui est une série diffusée en Angleterre et qui a été rachetée par Amazon, qui l'a rediffusée du coup cette rentrée. Fleabag, c'est une série en 6 épisodes qui raconte l'histoire de Fleabag. Du coup, c'est son personnage principal qui peut se traduire, pensé par sac à puce, qui est une adaptation du coup d'une pièce de théâtre que l'actrice a fait pendant 2 ans, une sorte de one-man show un petit peu, où du coup elle transforme les interactions avec le public en regard caméra. Donc c'est du format 21 minutes par épisode et ça raconte son histoire avec sa famille, avec sa sœur notamment. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont besoin d'être cachés. C'est drôle, c'est touchant. Il y a des scènes qui sont quand même. Ça m'a remué, quoi. C'est cohérent, c'est-à-dire que les 6 épisodes racontent vraiment quelque chose. Il faut aller jusqu'au bout des 6 épisodes pour découvrir la réalité de ce personnage. Ça utilise le regard caméra et le cassage de quatrième mur à la perfection. J'ai jamais vu, rarement vu un truc aussi bien géré de la part du regard caméra, qui est un truc que j'aime pas vraiment les apartés caméra comme il y a dans House of Cards, je trouve ça insupportable, et dans Malcolm, j'avais vraiment du mal. Là, ça fonctionne, elle fait des petits clins d'œil, des petites mimiques, ça dure une demi-seconde, mais t'es emporté avec elle. Donc ouais, je vous conseille vraiment Fleabag, ça se regarde en 1 heure et demie, vous pouvez regarder ça tranquillement chez vous. C'est vraiment bien. Je sais pas si j'espère qu'il y aura une saison 2, parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus rien d'autre à raconter. On verra, ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, mais vraiment, ouais, gros coup de cœur.
Il me semble qu'une saison 2 est envisageable et que ce sera va surtout dépendre de l'actrice et de ses disponibilités, de ce qu'elle aura à raconter, comme tu dis, dans la saison 2. Mais en tout cas, il me semble que c'est possible. Donc, c'est la porte est ouverte, quoi.
Ouais, je pense qu'effectivement l'actrice va être plus employée. Parce qu'elle a un travail quand même en une scène, elle fait passer du rire aux larmes, ouais, comme ça. Donc, c'est vraiment beau.
Moi, pour ma part, j'ai trois coups de cœur, donc je vais faire ça rapidement. Il y a donc This Is Us, parce que dans le genre mélodrame, ça tient bien la route et que les bons sentiments par les temps qui courent, ça fait aussi du bien. Il y a Atlanta, parce que pour moi, c'est une série nécessaire qui dit beaucoup de choses sur la société américaine tout en étant parfois drôle, et voilà. Et il y a Westworld, parce que l'univers est juste génial et les possibilités de développement incroyables.
Ouais, je partage tout sauf si c'est D6S. À toi, Galax.
Alors donc moi évidemment mes coups de cœur au niveau de ce podcast je pense c'est Westworld hein, ça c'est sûr et Frequency je dirais en deux clairement et si je dois parler d'une autre série que j'ai regardé des nouveautés cette année il y a Channel Zero sur Sci-Fi je sais pas si vous en avez entendu parler
Oui.
je l'ai
Si,
vu
j'ai
hier
regardé le premier épisode.
ah t'as regardé moi aussi t'en as pensé quoi
Moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal pour le coup.
ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je présente vite fait. C'est une sorte de sci-fi qui fait en fait son American Horror Story. On peut dire ça comme ça. Ce sera une série d'horreur, un peu thriller. Pour l'instant, il y a plus de thriller que d'horreur, mais bon. Une série mystère, un peu voilà, donc, horrifique, anthologique en principe. Donc, c'est-à-dire que la saison 1 voilà, racontera une seule histoire et que si une saison... il y a déjà une saison 2 prévue qui racontera une autre histoire. Et le pitch de la saison 1, c'est adapté d'une creepypasta. Une creepypasta CX qui s'appelle Candle Cove. Je sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas je la connaissais juste de nom avant parce qu'elle est quand même, enfin elle est assez réputée. C'était une petite histoire courte qui était adaptée dans une série, donc ils ont dû étendre pas mal de choses de l'univers, donc c'est plus une adaptation qu'une, enfin c'est plus une inspiration qu'une adaptation on va dire. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est, comment dire, qui a des petits problèmes mentaux, on peut dire ça comme ça, qui est complètement obsédé à l'idée d'une émission de télé pour enfants qu'il a regardée quand il était jeune, donc ça correspond aux années 80, et il commence à penser que ça a influencé toute sa vie et que l'émission est à l'origine de drames. À l'époque, parce que on l'apprend très vite, il a perdu quelqu'un de sa famille, en gros, à cause de cette émission. Et dans le présent, la fille d'une de ses amies, il me semble, qui commence à également croire qu'elle regarde cette émission. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Le premier épisode, ce qui m'a plu, c'est qu'il était extrêmement sobre au niveau réalisation et horreur. Alors que bon, c'est sci-fi, je sais pas trop à quoi je m'attendais parce que sci-fi, c'est plutôt connoté, bon, voilà, science-fiction, machin. Non, c'est franchement très bien fait. L'histoire est intéressante, les personnages sont peu nombreux, mais pour une mini-série anthologique, ça marche bien. Le mystère est super cool. La fin du premier épisode, ça reprend la fin de la creepypasta en fait, donc il y a un twist, hein, tout simplement, et le twist est super cool. Et il annonce
Tu
vraiment
veux
de bonnes
expliquer ce que
choses.
c'est une creepypasta? Moi je le sais, mais est-ce que
Ah,
c'est clair?
alors ouais, la creepypasta,
Ouais.
bah en gros c'est surtout des mythes et des mythes horrifiques qui se forment sur Internet, enfin
Ouais.
dans le monde
Sur Reddit souvent.
voilà. Et donc ça m'avait beaucoup intéressé parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs pour ceux qui suivent American Horror Story sur la saison 6, comme quoi ça pourrait s'inspirer du mythe du Slenderman, une creepypasta probablement la plus connue du coup, enfin une des plus connues aussi. Et perso, j'ai trouvé ça super intéressant d'adapter, enfin de prendre une creepypasta et de la mettre au centre, voilà, d'une série horrifique. Et bah voilà, donc Channel Zero, ça s'appelle la série, elle l'a fait. Et c'est ça qui était super intéressant. Et jusque-là, c'est très bien. C'est une American Horror Story, donc sur sci-fi, et beaucoup moins fantastique, hein. Il n'y a pas je sais pas, de sorcières, zombies, démons. C'est juste une creepypasta et c'est très bien fait. Donc je vous la conseille.
Merci les gars pour ces coups de cœur. On va se retrouver encore très vite sur le site. Il reste encore quelques nouveautés pas mal. On n'a pas eu le temps de tout faire, puis les nouveautés sont pas encore arrivées. À voir le mois prochain, et puis il y aura une bonne salve en janvier, février. Donc restez bien à l'écouter aux aguets. Merci à vous deux. Merci à toi Kayen.
Merci à toi, Cos.
Et merci Galax.
Merci Coste pour l'organisation de ce podcast. Tu fais toujours un super boulot.
Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très vite. Allez, salut!
Salut! Mais pour le moment, sinon, on a quand même. Moi, je trouve que c'est une saison pas mal. Hein. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi emballé, moi,
On l'a
par un
pas dit,
début
c'est
de
vrai.
saison.
On l'a pas dit.